La ville de Bondy a fêté la Noël dans le crépitement des armes. La veille de Noël, qui était mardi 24 soir, certains quartiers de Bondy qui n'étaient pas affectés par les violences ont pu bien célébrer. Mais partout, la messe a été célébrée comme voulu par l'archevêché à 15h. À 15h, c'est seulement ici, à la paroisse Charles Luanga, nous avons célébré à 18h pour la simple raison que nous nous préparions à commencer la messe à 16h quand les frères Paul étaient sortis sur la route, ont brûlé des pneus, ont bloqué un passage et ils voulaient venir nous attaquer. Alors tout le monde était agité, courait partout. Alors il n'y avait pas la quiétude pour commencer la messe. Nous avons appelé partout, nous avons appelé la force française qui est venue un peu les apaiser. Après l'apaisement, on a donné le temps pour que les gens se calment un peu, les sang se refroidit un peu et nous avons commencé la messe à 18h. La messe était très bien déroulée comme si de rien n'était. Il n'y avait pas de coups de fusil. Dans la souffrance, les gens chantaient la joie du nouveau-né, du Christ qui est venu dans notre monde. Et on a bien célébré cette fête. On a passé la nuit dans le calme jusqu'au matin du 25 décembre quand nous nous préparions à aller célébrer la messe qui était prévue pour 8h. Alors, à 7h50 exactement, quand je m'habillais, j'ai commencé à entendre des crépitements. C'était tellement répétition et puis c'était des tirs nourris. Alors, je me suis d'abord protégé contre le mur quelque part pour ne pas être atteint d'abord. Et après, quand j'étais sorti, les gens étaient en débandant partout. Entre-temps, il y a des gens qui étaient dehors. Parce que sur la paroisse, c'est un site de réfugiés internes. Les gens qui ont fui les tueries, les exactions de ceux qui tuent les hommes de tout âge dans les quartiers, ils ont fui pour être ici. Donc, ça fait un total de 20 000 personnes, dont plus de 10 000 enfants de 0 à 15 ans. Alors, avant même ce crépitement, quelqu'un était venu en armes, il commençait à dire aux hommes qu'ils devaient sortir. Je ne savais pas de qui il s'agissait. Est-ce que c'était un Séléka? Est-ce que c'était un Antibalaka? Je ne savais pas. Alors, j'allais vers lui pour lui dire, nous vous prions, ici c'est l'enceinte de l'église, nous ne permettons pas qu'il y ait ni des armes à feu, ni des armes blanches. Alors, si vous voulez assurer la sécurité, nous vous supplions d'aller là-bas, sortir de la conscience de l'église et faire ce que vous pouvez. Mais n'obligez pas les jeunes à sortir parce qu'ils n'ont pas d'armes sur eux. Ils vont se combattre qui et avec quoi. J'ai affiché son cœur, il était poli, il était sorti. Et quand il est sorti, c'est quelques minutes après, quand je retournais m'habiller maintenant, que le crépitement a commencé, on tirait dans la confusion. Donc, ils ont tué 3 personnes sur place, tous des hommes. 5 personnes étaient blessées, dont une grièvement. Et la personne qui est blessée grièvement a succombé à ses blessures dues à une hémorragie interne moins d'une heure de temps après. Ça fait un total de 4 blessés et de 4 morts.
Est-ce qu'on a pu, de manière positive, mon père, identifier les assaillants?
Les jeunes qui étaient dehors m'ont dit que certains étaient habillés en treillis militaire, d'autres en civil. On a l'habitude de voir les Séléka qui étaient convaincus que c'était des éléments de la Séléka qui étaient venus attaquer. Ils ont dit ça. Moi, je ne les ai pas vus. Nous savons qu'il y avait des menaces permanentes des Mbororo, le Peul. Donc, tout porte à croire que c'était les ex-rebelles de la Séléka qui ont porté ce coup parce qu'ils se disent qu'il y a leurs ennemis, les anti-Balaka ici, ce qui est archi faux. Parce que nous ne tolérons pas quelqu'un ici, ni de la Séléka, ni des anti-Balaka. Tous ceux qui veulent venir, ils viennent les mains nues comme réfugiés pour fuir les tueries dehors.
Donc, vous avez dit, mon père, qu'il y a des milliers de personnes dans l'enceinte de votre église maintenant?
Oui. Nous avons fait des recensements depuis le 5 décembre, le début des hostilités, jusqu'à maintenant, nous avons 20 000 personnes, 20 000.
Et comment prenez-vous soin de ces milliers de personnes déplacées?
C'est la grosse difficulté que nous avons. Dieu merci, les organismes internationaux sont là, mais les échauffourés, les rebelles et ceux qui font les désordres là, leur compliquent la tâche. Au début, quand il y avait un peu d'accalmie, nous avons le PAM qui nous a aidé un peu. Avec des nourritures, bon, pas de très bonne qualité, mais quand même la quantité était là. Il y a Médecins sans frontières qui évacue nos blessés graves et des cas d'urgence. Il y a Solidarité internationale qui nous faisait des latrines. On a un fourrage sur place et puis on utilisait ça pour pomper de l'eau afin que les gens aient de l'eau potable. Mais depuis 3 jours, puisqu'on a surutilisé l'eau de fourrage, on a surutilisé la pompe est gâtée. Depuis 3 jours, il n'y a pas d'eau. Alors maintenant, on a peur qu'il y ait risque de contamination ou de choléra. Les femmes vont tirer de l'eau sale dans les puits, on est bloqué. Les gens, vous devez venir voir ce qui se passe, mais la route est bloquée. Nous sommes vraiment abandonnés comme ça dans la précarité totale.
Il y a beaucoup d'enfants parmi ces réfugiés?
Beaucoup d'enfants. Nous avons compté, bien compté, de 0 à 15 ans. On a compté plus de 10 000 enfants, autour de 11 000 ou 12 000 enfants, de 0 à 15 ans. Et beaucoup de petits enfants. en dessous de 10 ans.
Craignez-vous qu'un incident comme celui du jour de Noël se répète? Avez-vous pris des mesures au plan sécuritaire?
Bon, nous avons appelé les forces de la MISCA. Il n'y avait pas eu une réponse positive. C'est les forces françaises qui sont venues à deux reprises. Ils ont vu le terrain, ils sont repartis, ils sont revenus encore poser des questions. Ils sont repartis avec l'assurance que normalement, devaient revenir vers nous pour la sécurité. Alors nous attendons. Et ça se réalisera, nous ne savons pas. Mais depuis le 5 décembre, j'appelais quotidiennement. Je disais que là, nous sommes dans une poudrière. Il y a beaucoup d'armes autour de nous. Ce n'est pas encore désarmé notre région. On a besoin d'une force sur place, d'un détachement pour protéger 20 000 âmes qui sont dans l'église, serrées, qui vivent dans la précarité. Mais les gens prenaient à la légère ce que je disais. Voilà maintenant, il y a des massacres, voilà que c'est grave, les gens commencent à se déplacer un peu. C'est un peu dommage, et ce que je déplore.
Comment voyez-vous jusqu'à présent l'intervention de la communauté internationale en Centrafrique?
Les Africains se mobilisent un peu. Il y a des gens qui commencent à venir, les Burundais sont là, les Congolais de Kinshasa se préparent à venir. Je vous ai parlé des Rwandais aussi. La mobilisation se fait, mais elle est lente. En ce qui concerne les pays occidentaux, la France est là sur le terrain, mais avec un sous-effectif. Pour que la situation puisse être sous contrôle, il faut au moins un minimum de 10 000 soldats sur le terrain pour se répondre. Parce que là, les gens sont disciplinés. Il y a trop d'armes dans Bangui maintenant. Ce qui était politique a tendance à devenir un conflit interreligieux. Et j'ai pas envie de croire ça, car nous avions vécu dans une parfaite harmonie depuis la nuit des temps. C'est seulement depuis le 24 mars, après le coup d'État, là, on commence à sentir par la réaction des uns et des autres ce qui était au pouvoir, les syndicats. Il y avait un acharnement terrible sur les chrétiens. Je ne comprenais pas.
Y a-t-il un dialogue entre les leaders religieux, chrétiens, musulmans?
Il y a des efforts qui se font par-ci, par-là. L'archevêque qui lance des appels, le pasteur qui lance des appels, l'imam, mais peu de gens les écoutent. Les gens sont portés par la colère, par l'exaspération, alors c'est pas facile. Il y a des gens qui se vendent, qui disent oui, on a tué celui-ci de ma famille. Les exactions étaient tellement atroces que bon, nous voulons. Donc il y a des gens qui font ça. Mais la violence n'engendrera que la violence. À un moment donné, il faut s'arrêter et savoir que d'un côté ou de l'autre, on a fait des pertes lourdes, très lourdes. Il y a des gens qui souffrent terriblement, qui ont tout perdu. On a volé, on a cassé, on a brûlé, ils n'ont rien. Ils ne savent pas comment commencer demain. Mais s'arrêter, parce qu'il y a la vie, il peut y avoir de l'espoir. Et dialoguer pour préserver la vie de nous qui avons eu la vie, sauf on n'a pas été tués. Alors qu'on recommence, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais la spirale de vengeance n'engendrera que la vengeance, malheureusement. C'est ce que nous sommes en train de vivre.
C'est un message d'espoir qui cadre bien avec le message de Noël. Je vous remercie, mon père.
Je vous remercie.